Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, rendons grâce à Dieu qui permet qu'une nouvelle fois nous nous retrouvions ici ensemble à Écône pour participer à cette magnifique cérémonie de l'ordination sacerdotale qui est la raison d'être et le couronnement de nos séminaires. Des séminaires sans ordination ne seraient plus des séminaires d'église, ne seraient plus des séminaires catholiques. C'est pourquoi, ayant la joie d'imposer les mains à ces nouveaux prêtres, nous remercions Dieu qui a permis que nos séminaires continuent à vivre et même à se développer, puisque Écône est devenue aussi Flavigny, et qu'ainsi un nombre plus important de jeunes gens qui désirent devenir de vrais prêtres catholiques peuvent trouver et la formation et les grâces nécessaires pour devenir de vrais prêtres et de saints prêtres. Mes chers amis, c'est à vous d'abord que j'adresserai quelques mots d'édification, d'encouragement. Vous allez être ordonnés dans la messe catholique. Vous ne serez pas ordonnés dans la messe néo-protestante. Et cette messe catholique a été, est encore et sera toujours le grand programme sacerdotal, le grand programme de la vie chrétienne. Modifier cette messe, c'est modifier aussi l'idéal sacerdotal et l'idéal chrétien, l'idéal catholique. En effet, cette sainte messe est avant tout la croix de Jésus, la continuation de la croix de Jésus. Le voile du temple s'est déchiré parce que Jésus est mort sur la croix. L'Ancien Testament disparaissait pour faire place au Nouveau Testament. Est-ce que tout était changé ? Oui et non. Sans doute tous les rites de l'ancienne loi et une certaine conception de la loi de Dieu étaient changés, mais l'essentiel de la loi de l'Ancien Testament se transformait dans une vision vivante de la loi d'amour. Qu'est-ce que le décalogue, sinon aimer Dieu et aimer son prochain? C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'a dit. Et cette loi d'amour, désormais, n'est plus seulement inscrite sur des pierres. Elle est inscrite dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la loi d'amour. Et il la manifeste sur sa croix. Quelle plus belle manifestation de cette loi d'amour, de charité, notre Seigneur pouvait-il donner que de mourir sur la croix pour la gloire de son Père et pour le salut des âmes. C'est donc cette loi d'amour que Jésus nous prêche sur la croix et qu'il nous prêche tous les jours au saint sacrifice de la messe. Cette loi d'amour qui a été mise dans vos cœurs, mes bien chers amis, dans vos âmes, par la grâce du baptême. La grâce du baptême, en effet, vous a transformé et vous a uni profondément à notre Seigneur Jésus-Christ pour réaliser sa loi d'amour, sa loi de charité. Et le Saint Sacrifice de la Messe, célébré comme le bon Dieu vous en donnera la grâce, je l'espère, tous les jours de votre vie, entretiendra cette grâce du baptême. Et quand vos parrains et marraines ont dit qu'ils s'attachaient à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils s'éloignaient de toutes les tentations de ce monde, eh bien, c'est ce que vous répétez désormais tous les jours. Mon Dieu, ô Jésus, je m'attache à vous pour toujours. Je veux être votre prêtre, celui qui prêche la loi d'amour par l'exemple et par la parole. Éloignez-moi de tout ce monde et de ses tentations. Préservez-moi de toutes les influences de ce monde qui est au service de Satan, qui est au service de la désobéissance à Dieu. Et ainsi vos âmes seront réconfortées devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, devant son sang et devant son corps que vous aurez devant vous sur l'autel et que vous verrez vous-même descendre du ciel par les paroles de la consécration que vous prononcerez. Quel mystère sublime, Dieu obéissant aux hommes pour offrir et continuer son sacrifice. Ce sera le programme de votre vie sacerdotale. Pénétrez les âmes qui viendront à vous. Pénétrez les âmes qui participeront à votre saint sacrifice de la messe de ces sentiments d'amour envers Dieu, d'amour envers le prochain, jusqu'au sacrifice de soi-même. Et Dieu sait, si notre Seigneur Jésus-Christ nous en donne l'exemple, jusqu'au sacrifice de soi-même, jusqu'à la mort s'il le faut, jusqu'à verser son sang pour demeurer unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit là votre programme. Et c'est pourquoi vous devez être attaché à la vie, à la mort, à ce saint sacrifice de la messe que vous allez célébrer avec moi aujourd'hui. Ne vous laissez pas séduire par les attractions du monde, par l'appel du monde, pour transformer ce saint sacrifice de la messe dans une assemblée purement humaine. Et je souhaite vivement que vous demeuriez dans ces sentiments toute votre vie sacerdotale, et que vous soyez des apôtres, comme le sont vos aînés partout où ils ont été envoyés, comme le sont ces chers prêtres qui sont ici présents et qui nous entourent aujourd'hui et qui sont heureux de vous imposer leurs mains. Prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, prêtres de l'amour crucifié, prêtres de Jésus crucifié, et non pas prêtres du monde, et non pas prêtres pour le monde. Mes bien chers frères, permettez que je profite aussi de ces circonstances pour faire avec vous le point de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, comme nous le faisons habituellement à l'occasion de cette cérémonie du sacrement de l'ordination, d'ordination sacerdotale. Et il faut bien le dire, je ne puis pas me taire et je ne puis pas le cacher. Cette année a été une année grave, très grave pour l'Église catholique, pour nous catholiques, pour les prêtres catholiques. Vous savez que dans des écrits qui ont paru de ci, de là, J'ai eu l'occasion de dire que, oui, j'attendais des signes de la Providence pour accomplir des actes qui me paraissent nécessaires pour la continuation de l'Église catholique. Bien, je dois avouer que j'ai la conviction que ces signes sont venus. Quels sont-ils ? Ils sont deux. Assise est la réponse qui nous a été faite de Rome aux objections que nous avions envoyées à propos de la liberté religieuse. Et j'avouerai que la réponse qui nous a été faite après Assise, puisque Assise a eu lieu le 27 octobre et que la réponse nous est parvenue au cours du mois de janvier, j'avouerai que la réponse de Rome aux objections que nous faisions sur les erreurs de Vatican II au sujet de la liberté religieuse sont plus graves qu'Assise. Assise est un fait historique, est une action. La réponse à nos objections sur la liberté religieuse est une prise de principe, est une affirmation de principe, et donc plus grave. Autre chose est faire simplement une action grave, scandaleuse. Autre chose est affirmer des principes faux, erronés, qui ont par conséquent dans la pratique des conclusions désastreuses. Et c'est pourquoi la Providence a voulu que, par un certain concours de circonstances, nous ayons rédigé ce livre qui vient de paraître il y a quelques jours. Ils l'ont découronné. Qui ? Qui a découronné et qui a été découronné ? Qui a été découronné ? Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui l'a découronné ? Les autorités romaines d'aujourd'hui. Et ce découronnement se manifeste d'une manière évidente alors dans la cérémonie d'Assise. Jésus-Christ est découronné. Il n'est plus le roi universel, le roi que nous proclamons depuis la fête de Noël jusqu'à son ascension. Toutes les fêtes liturgiques proclament la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout au cours de l'année liturgique, nous chantons Rex Regum, Dominus Dominantium, notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'au lieu de magnifier la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, on institue un panthéon de toutes les religions. Et ce panthéon de toutes les religions, comme l'avaient fait les empereurs païens de Rome, au panthéon qu'ils avaient construit, ce panthéon, ce sont les autorités romaines qui le font eux-mêmes. Scandale immense pour les âmes, pour les catholiques, qui ne doutent de la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là ce qu'on appelle précisément le libéralisme. Le libéralisme est l'institution de la liberté de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et par conséquent, l'homme qui dans sa conscience croit, espère, professe une religion quelconque est aussi respectable que celui qui se dit professer la véritable religion. l'État, la société civile, n'est plus capable de connaître quelle est la vraie religion. C'est ce qui est affirmé dans le document qui nous a été donné par Rome. L'État est incompétent en matière religieuse et donc ne peut pas décider quelle est la vraie ou la fausse religion, et par le fait même doit laisser se répandre dans cet espace social autonome, comme il l'appelle, cet espace social autonome qui est pratiquement toute la vie de l'État, doit laisser se développer toutes les erreurs religieuses, quelles qu'elles soient, parce que l'homme est libre d'avoir sa propre religion. Eh bien, nous disons non, non, non. Et la Sainte Messe nous le montre. Il y a une loi d'amour. Et notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix nous la clame, cette loi d'amour. Il nous la proclame. Il nous la prêche. Il nous dit, vous devez obéir à la loi d'amour. Quiconque n'obéit pas à la loi d'amour n'est pas digne de la vie éternelle. C'est donc une loi obligatoire. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de choisir notre sainte religion. Il n'y en a qu'une, celle que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a proclamée du haut de sa croix. Et le libéralisme est devenu l'idole de nos temps modernes. Une idole qui est maintenant adorée dans la plupart des pays du monde, les pays même catholiques du monde. Cette liberté de l'homme vis-à-vis de Dieu, qui défie Dieu, qui veut se faire ses propres commandements, qui se fait sa propre religion, le libéralisme, avec ses commandements qui sont les droits de l'homme, avec ses associations laïques, avec ses états laïques, avec son enseignement laïque, sans Dieu, athée, voilà le libéralisme. Mais comment est-il possible que les autorités romaines encouragent ce libéralisme et professe ce libéralisme dans le décret de la liberté religieuse? Et c'est là ce qui est très grave, à mon sens. Rome est dans les ténèbres de l'erreur. Nous ne pouvons pas le nier, c'est impossible. Comment pouvons-nous supporter de nos yeux de catholiques, à plus forte raison de nos yeux de prêtres, ce spectacle qu'on a pu voir à Assise, dans l'église de Saint-Pierre, qui a été donné aux bouddhistes pour exercer leur culte païen, qui ont mis leur idole sur le tabernacle de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, et ont fait leur cérémonie païenne devant ce tabernacle, vide sans doute, mais coiffé par Bouddha, par leur idole. Est-ce concevable, dans une église catholique, dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce sont des faits qui parlent par eux-mêmes. Il nous est impossible de concevoir une erreur plus grave. Comment est-ce possible? Laissons la réponse au bon Dieu. C'est lui qui mène toutes choses. C'est lui qui est le maître des événements, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sait ce que sera l'avenir de cette emprise des erreurs sur Rome et sur les autorités les plus hautes, depuis le pape jusqu'aux cardinaux et tous les évêques du monde qui suivent ses idées, car tous les évêques du monde suivent les idées fausses du Concile, avec leur œcuménisme et avec leur libéralisme. Dieu seul sait où tout cela va aboutir. Mais pour nous, si nous voulons rester catholiques, et que nous voulons continuer l'Église, nous avons des devoirs imprescriptibles, nous avons des devoirs graves qui nous obligent d'abord à multiplier les prêtres qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa royauté sociale, selon la doctrine de l'Église. C'est pourquoi je suis heureux que ce livre sur le libéralisme est paru aujourd'hui, afin, mes chers amis, que vous puissiez vous en nourrir et bien comprendre le combat que nous menons. Ce n'est pas un combat humain. Nous sommes aux prises avec Satan. C'est un combat qui demande toutes les forces surnaturelles dont nous avons besoin pour lutter contre celui qui veut détruire l'Église radicalement, qui veut détruire l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a voulu depuis que notre Seigneur est né, et il veut continuer d'abolir, de détruire son corps mystique, de détruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, de détruire toutes ses institutions, quelles qu'elles soient. Alors nous devons être conscients de ce combat dramatique, apocalyptique, dans lequel nous vivons, et ne pas le minimiser, parce que dans la mesure où nous le minimisons, notre combat diminue. Nous devenons des faibles, et nous n'osons plus proclamer la vérité. Nous n'osons plus proclamer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça sonne mal aux oreilles du monde laïque, aux oreilles du monde athée. Dire que notre Seigneur Jésus-Christ doit régner dans les sociétés, c'est une folie pour le monde. Nous sommes des retardataires, nous sommes des attardés, nous sommes des gens figés dans le Moyen-Âge. Tout cela est passé, c'est fini, c'est un temps révolu. Plus question que notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner sur les sociétés. Alors nous aurions peut-être tendance à avoir peur de cette opinion publique qui est contre nous, parce que nous affirmons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous étonnons pas que toutes les manifestations que nous pourrons faire en faveur de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ trouvera devant nous une armée dirigée par Satan pour nous détruire, pour empêcher notre influence, pour la détruire. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de faire cette ordination sacerdotale et que nous pensons sincèrement qu'il n'est pas possible d'abandonner cette œuvre que le bon Dieu a mise dans nos mains, car ce n'est pas moi qui l'ai fondée en vérité, c'est notre Seigneur, par des circonstances incroyables. Et maintenant, après 15 ans d'existence, notre fraternité a pris des dimensions mondiales. Et puis, bien d'autres initiatives, grâce à Dieu, se sont levées aussi, avec nous, autour de nous. Tous ces religieux, religieuses qui sont ici, qui se sont levés aussi pour proclamer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas abandonner notre Seigneur. Allons-nous l'abandonner ? Allons-nous le laisser une deuxième fois crucifié? Allons-nous laisser l'Église dans l'état de sa passion qu'elle subit maintenant sans que nous venions à son secours? Et que deviendront les âmes si plus personne ne proclame la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Et que deviendront les âmes si nous ne leur donnons plus la véritable grâce dont elles ont besoin pour leurs âmes? Alors tout cela est d'une nécessité évidente. Et par conséquent, il faut que nous en soyons convaincus. Et c'est pourquoi il est vraisemblable que je me donnerai des successeurs pour pouvoir continuer cette œuvre. Parce que Rome est dans les ténèbres. Rome ne peut plus actuellement écouter la voix de la vérité. Rome n'écoute plus la voix de la vérité. Alors, comment faire? Quel écho à nos appels? Voilà 20 ans que je vais à Rome, que j'écris, que je pars, que je leur envoie des documents pour leur dire « Suivez la tradition, revenez à la tradition, sinon l'Église va à sa perte. Vous devez, vous, qui êtes placés à la succession de ceux qui ont construit l'Église, vous devez continuer à la construire et non pas à la démolir. » Ils sont sourds, sourds à nos appels. Et le dernier document donc, que nous venons de recevoir le prouve amplement. Ils s'enferment dans leurs erreurs, ils s'enferment dans les ténèbres. Et ils vont conduire les âmes à l'apostasie, tout simplement, à la ruine de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, à la ruine de la foi catholique et chrétienne. Pourquoi, si Dieu nous le demande, eh bien, nous n'hésiterons pas à nous donner des auxiliaires pour continuer cette œuvre, car nous ne pouvons pas penser que Dieu veut que cette œuvre soit détruite, que cette œuvre soit terminée, qu'elle ne continue plus, et que les âmes soient abandonnées, et que l'Église, par le fait même, n'ait plus de pasteur. Nous vivons une époque tout à fait particulière. Il faut que nous en rendions compte. La situation n'est pas normale. Elle n'est plus normale à Rome, particulièrement. Lisez le journal de Sissi Nono, fait par les chercheurs qui sont venus ici, qui sont venus, heureusement, voir Econ et trouver ici un encouragement à l'œuvre qu'elles accomplissent. Ce journal, Sissi Nono, nous donne des indications précises sur la situation romaine, une situation invraisemblable, jamais connue dans l'histoire. Jamais, jamais. Jamais. Le pape se faisant, comme je le disais tout à l'heure, en quelque sorte le gardien du panthéon de toutes les religions, se faisant le pontife du libéralisme. Dites-moi si cette situation a existé dans l'Église. Que devons-nous faire devant une telle réalité? Pleurer, sans doute. Oh, nous pleurons. Notre cœur est démoli. Notre cœur est douloureux devant cette situation. Nous donnerions notre vie, notre sang pour que la situation change. Que voulez-vous? La situation est telle, l'œuvre que le bon Dieu a mise dans nos mains est telle que devant cette obscurité de Rome, devant cette ténacité dans l'erreur des autorités romaines, devant ce refus de revenir à la vérité et à la tradition de ceux qui occupent les sièges à Rome, eh bien, il nous semble que le bon Dieu demande que l'Église continue. Et c'est pourquoi il est vraisemblable que je devrais, avant de rendre compte de ma vie au bon Dieu, faire des ordinations épiscopales. Mes bien chers amis, bien chers frères, prions. Prions de tout cœur. Prions la très sainte Vierge Marie. Nous allons aller à Fatima le 22 août pour demander à Notre-Dame de Fatima de nous aider. On n'a pas voulu révéler son secret. On a enfoui le message de la Vierge Marie. Ce message devait sans doute empêcher ce qui se passe aujourd'hui. Si son message avait été connu, il est très vraisemblable que nous n'en serions pas là, que la situation à Rome ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les papes ont refusé de publier ce message de la Vierge Marie. Eh bien, les punitions annoncées par Marie viennent. L'apostasie annoncée par l'Écriture arrive. La venue de l'Antéchrist s'approche d'une évidence claire. Alors, devant cette situation tout à fait exceptionnelle, nous devons aussi prendre des moyens exceptionnels. Voilà, mes chers, bien chers frères, bien chers amis, pendant cette messe, nous allons prier particulièrement les saints apôtres Pierre et Paul, responsables de l'Église, qu'il nous éclaire, qu'il nous aide, qu'il nous donne le don de force et le don de sagesse pour continuer leur œuvre, poursuivre leur œuvre, poursuivre l'œuvre de Pierre, de Paul et de tous leurs successeurs. Nous demandons-le surtout à la très sainte Vierge Marie et consacrons nos personnes, consacrons nos familles, consacrons nos cités au cœur de Jésus et Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, venu pour vous le jour où vous allez faire le pas à la demande de l'évêque, vous allez faire ce pas qui signifie le choix définitif que vous faites de vous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ et de vous orienter vers son autel et vers son sacrifice. C'est une étape, vous le savez bien, et vous y avez réfléchi sans doute, pendant les jours de la retraite, c'est une étape très importante dans votre vie. Et il me semble que de la part de l'Église, c'est pour vous un appel à la sainteté, un appel vibrant, un appel pressant à la sainteté. Et qu'est-ce que la sainteté, sinon devenir un vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ? Et à ce propos, je voudrais vous rappeler la parabole de notre Seigneur qui se trouve au chapitre 13 de l'Évangile de Saint-Luc. Notre Seigneur exprime à l'occasion de cette parabole l'appel qu'il adresse à tous ceux qu'il invite dans son royaume, qui est signifié par le festin auquel sont invitées certaines personnes par le Seigneur qui donne le festin. Et vous le savez, ceux qui sont invités s'excusent. L'un a acheté des paires de bœufs, l'autre a acheté une villa, un troisième s'est marié et ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir, c'est-à-dire qu'ils refusent d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont préoccupés des choses de la terre. Et alors le Seigneur dit à ses serviteurs d'aller chercher les pauvres, les boiteux, les aveugles, et de remplir la salle, c'est-à-dire ceux qui, en définitive, ne sont pas attachés à ce monde, n'ont rien, ont l'esprit de pauvreté, et les faire venir dans son royaume. Et notre Seigneur s'explique après, auprès de ses apôtres, de cette parabole. Et il leur dit, si quelqu'un ne renonce à tout ce qui l'entoure, à toute sa famille, à tous ses amis, ses parents, et à lui-même, si quis non audit animam suam, s'il ne renonce à lui-même, il ne peut être mon disciple. Non potest esse discipulus meus. Non potest. Et il ajoute, par des comparaisons, que celui qui doit mener une bataille réfléchit avant d'aller à la bataille, avant d'aller à la guerre, si ses troupes sont suffisantes par rapport à celui qu'il va affronter. Et s'il croit ne pas pouvoir vaincre, alors il va faire des propositions de paix. Notre Seigneur va montrer là la prudence, la vertu de prudence. Et il ajoute ensuite, celui qui ne renonce pas à tout ne peut pas être mon disciple. Qui non renunciat omnia qui possidet non potest esse mis discipulus. Et il conclut par ces quelques petites phrases. Si le sel de la terre s'affadit, à quoi servira-t-il? Il n'y a plus qu'à le jeter. Et voilà, je pense, mes chers amis, dans cette parabole, dans ces comparaisons que prend notre Seigneur nous dit d'une manière impérative, nous devons nous détacher. Alors, évidemment, les gens du monde, les gens qui ont l'esprit du monde, ne comprennent plus. Dieu a créé le monde, nous a mis dans ce monde. Mais c'est pour vivre dans ce monde. C'est que ce monde est bon et que nous pouvons en jouir, que nous pouvons en profiter. Mais notre Seigneur, s'il a prononcé ces paroles et les a inspirées, a inspiré l'Écriture, c'est que les événements ont changé. C'est que l'homme est désormais déséquilibré, désaxé par le péché originel. Et alors les biens de ce monde l'entraînent vers le péché, l'entraînent vers l'éloignement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai acheté des paires de bœufs, j'ai construit une maison, je me suis marié, je ne puis pas venir, je ne puis pas m'attacher à vous, je n'ai pas le temps. Et voilà. Et c'est pourquoi notre Seigneur demande que nous haïssons, quand notre Seigneur emploie ce terme « audite », je pense qu'il signifie surtout se détacher, que le cœur se détache, que nos cœurs se détachent des biens de ce monde dont, peut-être, au moins dans une certaine mesure, nous devons utiliser. Il faut vivre dans ce monde. Mais si, encore une fois, nous utilisons, nous avons des contacts avec nos familles, nos amis, avec nos biens, avec ce que nous sommes, nous devons avoir le cœur détaché de ces choses-là, prêt à nous en séparer. Et en être séparé d'affection, d'attachement. Alors au moment où l'Église, mes chers amis, va vous donner des pouvoirs vraiment extraordinaires, car en définitive, vous montez cette fois à l'autel qui est le Christ. Dans quelques instants, le pontife va vous le rappeler, altare Christus est. À l'autel où les linges qui entourent l'autel et dont vous aurez la charge et le soin représentent les membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église vous donne le pouvoir de lire désormais l'Écriture publiquement pour sanctifier les âmes, pour les purifier, pour les préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans leurs âmes, dans leur cœur. Vous allez pouvoir également toucher les vases sacrés. C'est vous qui allez porter à l'autel les vases sacrés et les oblations, les oblats. Vous participez donc d'une manière beaucoup plus intime au Saint-Sacrifice de la Messe. Et vous vous préparez un jour à offrir le Saint-Sacrifice. Alors l'Église vous rappelle la nécessité de vous sanctifier et elle vous demande de garder le célibat. Et toutes ces choses ne sont plus comprises aujourd'hui. Même dans l'Église, elles ne sont plus comprises. Et bien souvent, ne sont plus appliquées. Alors vous vivez dans un temps où vous trouverez la contradiction. Il vous faudra donc être convaincu de ce que vous faites, être convaincu de la nécessité de cette séparation, de ce détachement, de cet éloignement. Sinon, peu à peu, vous vous laisserez, vous aussi, attirer par les choses du monde. Vous direz, après tout, pourquoi pas, puisque maintenant, on n'est plus dans la conception de l'Église d'autrefois, mais on a une autre vue des choses de ce monde, une autre appréciation des choses de ce monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas les utiliser et vous éloigner par le fait même de notre Seigneur Jésus-Christ? Car cette conception est fausse. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous détacher des choses de ce monde parce qu'il sait pertinemment que ce sont ces choses auxquelles nous nous attachons et qui nous font tomber dans le péché. Or, le péché est le grand mal de nos âmes et le mal de toutes les âmes. Alors vous qui allez désormais monter à l'autel, être l'exemple de la vertu pour les fidèles, il est normal que l'Église vous demande d'être des saints, de vous sanctifier. Et au cours des prières qui sont dites à votre sujet par le pontife, l'Église demande que le Saint-Esprit descende dans vos âmes avec tous ses dons. Vous serez donc à nouveau reconfirmé en quelque sorte dans la grâce du Saint-Esprit comme vous l'avez été et au jour de votre baptême et au jour de votre confirmation. En ce jour, vous allez recevoir le sous-diaconat, vous serez reconfirmé dans la grâce de l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce que la grâce de l'Esprit-Saint? Sinon la charité de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Hier, à l'occasion du premier vendredi du mois, nous avons relu cet épître magnifique de saint Paul, n'est-ce pas, qui magnifie la charité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui souhaite que nous ayons tous la science de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, demandons aussi à tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dans le ciel, tous les prêtres, les saints prêtres qui nous ont précédés, de nous donner cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pontife a aussi prononcé une parole très importante, très grave, à votre sujet, qui est comme tout un programme, en disant que vous devez avoir la foi, une foi profonde, forte, parce que tout ce qui n'est pas de la foi, c'est la parole même qui est prononcée, est péché. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Voilà qui est très grave, très important. C'est-à-dire, tout ce qui ne se rattache pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui ne se rattache pas à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est péché. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est tout désormais, tout. Il est Dieu, il est rédempteur, il est sanctificateur, il sera le glorificateur, il est notre tout. Et cela pour tous les hommes. Par conséquent, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, refusent ces réalités, refusent le règne de notre Seigneur, refusent sa qualité de Dieu, ceux-là sont dans le péché. Péché d'infidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore une parole très importante qui vous est adressée, qui est tout un programme de vie, tout un programme d'apostolat, parce que vous aurez à répandre la foi. vous aurez à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'on s'y attache, parce qu'il est la voie, la vérité et la vie. Remplissez donc, mes chers amis, vos intelligences, vos volontés, vos cœurs, vos âmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez peu de temps maintenant, définitif, avant le sacerdoce. Ce ne sont plus quelques mois qui vous séparent encore du sacerdoce. Un peu plus d'un an, avec la grâce de Dieu. Alors, profitez de ces mois de séminaire pour vous pénétrer de cet idéal, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit vraiment votre lumière, qu'il soit votre charité, qu'il soit votre tout, afin que vous compreniez mieux la nécessité de pratiquer les vertus que le bon Dieu vous demande de pratiquer. Pensez à un Saint Paul, Saint Paul qui persécutait notre Seigneur et qui a été sur le chemin illuminé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que voulez-vous que je fasse, dit Saint Paul, que voulez-vous que je fasse? Aujourd'hui aussi, demandez vous-même à notre Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Eh bien, viens et suis-moi. C'est en définitive ce que notre Seigneur a dit à Saint Paul. Et alors, notre Seigneur, de manière absolument incroyable, a choisi cet homme d'une manière toute particulière pour en faire un apôtre exceptionnel en l'instruisant lui-même. C'est Saint Paul lui-même qui dit: je n'ai rien, je n'ai même pas eu de contact avec les apôtres, sinon rapidement avec Pierre et Jacques. Mais tout m'a été donné par la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout lui a été révélé pendant les années qu'il a passées dans la solitude et dans le désert, un peu comme ici, vous, au séminaire, dans cette solitude du séminaire. Eh bien, le bon Dieu vous révèle, il se révèle à vous. Et Saint Paul a encore eu cette grâce extraordinaire de pénétrer dans le ciel et d'y voir des choses que les hommes ne sont pas capables de prononcer, ne sont pas capables de dire. C'est ça l'apôtre, voyez-vous. L'apôtre est celui qui, dans une certaine mesure, voit. Bien sûr, c'est la foi qui nous fait voir, puisque nous n'avons pas la vision. Mais par sa foi vive, voit en quelque sorte la réalité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la réalité de Dieu, la réalité de la Sainte Trinité, car en Jésus se trouvent le Père et le Saint-Esprit. Et toute l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée et à laquelle vous êtes appelés à contribuer, quelle chose magnifique, mes amis, quelle grâce extraordinaire le bon Dieu vous fait, quelle joie profonde pour vos âmes, malgré les difficultés, malgré les épreuves auxquelles vous aurez à répondre et que vous aurez à subir. Eh bien, ayez confiance. Demandez à la Vierge Marie, qui n'a eu qu'une pensée, un amour. C'était son divin Fils. Elle n'a jamais pensé autre chose, elle n'a jamais voulu autre chose, elle n'a jamais désiré autre chose que son divin Fils, son règne. Elle le manifeste encore par toutes les apparitions qu'elle a faites ici-bas pour le règne de son divin Fils. Demandez à la Très Sainte Vierge de vous donner un peu de sa science de notre Seigneur Jésus-Christ, elle qui l'avait d'une manière magnifique puisqu'elle était remplie du Saint-Esprit, remplie de science. Sans doute elle n'avait pas la vision béatifique comme son divin Fils, mais elle en approchait. Alors demandez-lui de vous faire participer à sa science afin de vous faire participer aussi à son amour pour notre Seigneur et à son service pour le règne de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.